pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
L'extériorisation du problème a paru suffisamment important, suffisamment grave pour que des personnalités partout, des académiciens, des savants même, comme Jean Rostand, expriment leur avis sur ce phénomène du rock.
Tout ce que je vais vous dire sera fait uniquement d'après ce que j'ai pu lire dans les journaux. Or, il me paraît que ces crises d'hystérie collective comportent un certain infantilisme. Il me semble qu'il y a là, en effet, une sorte de libération à la fois d'instincts puérils et d'instincts d'animaux. Je peux vous répondre un petit peu au nom de la morale biologique. L'un des principaux impératifs de cette morale biologique, c'est qu'un homme doit viser à être un homme dans toute acception du mot, c'est-à-dire un adulte et un être qui surmonte en lui l'animalité. Donc, à ce point de vue, je pense que le rock'n'roll est un peu contraire à la morale biologique et qu'il y a une certaine amoralité à se comporter comme font tous ces jeunes gens, à la fois en bête et en enfant. Mais ceci dit, je vous dirais qu'il ne faut peut-être pas accuser trop ces jeunes gens. Je voudrais savoir si leur famille, si la société
a fait ce qu'il fallait pour créer en eux ces freins
qui leur eussent permis de résister à ces instincts, à ces instincts animaux, c'est-à-dire de ne pas s'abandonner à cette régression que me paraîtrait le rock'n'roll. Ces jeunes gens sont certainement des insatisfaits, des gens qui n'ont été intéressés à rien, captivés par rien. Est-il donc tellement étonnant qu'ils fassent cette régression? Je pense qu'il faudrait surtout s'attaquer aux causes plutôt que s'attaquer à l'effet. Or, si je crois que c'est toute la société qu'il faudrait transformer, je répète,
pour que les jeunes gens ne tombent pas dans cette sorte de piège infantile et bestial que présente le rock.
Le rock'n'roll, un piège infantile et bestial. Voilà ce que pouvaient en dire des intellectuels des années 60. Salut les amis, c'est JBD avec vous pour cette émission généralement consacrée à la politique, l'histoire, la géostratégie. Mais cette semaine, ras-le-bol de vous causer des ravages du capitalisme triomphant, des impérialismes ou des camps de concentration nazis qui sont l'un des dadas de cette émission. Aujourd'hui, j'ai envie d'écouter de la musique avec vous, d'aller au concert, de danser. Mais en fait, je suis pas certain d'avoir grand-chose d'intéressant à vous dire de ces musiques actuelles, rock, pop, dub, électro et compagnie. Alors bon, si vous vous attendez à des révélations sur la musique, vous pouvez tout de suite changer de fréquence. J'aimerais pourtant cette semaine évoquer un événement que j'adore depuis bientôt 33 ans qu'il existe, le festival Au Quart de Tour, génial et convivial événement qui annonce l'été et que Radio Béton organise dans la ville de Tours depuis 1986. Et c'est là que tout petit, votre serviteur a vécu les balbutiements de sa culture punk rock et rock'n'roll, comme on disait encore fin des années 80, au millénaire dernier. Au Quart de Tour, c'est là que chaque année depuis plus de 30 ans que je me roule dans l'herbe avec les copains, que je bois de la bière, que je déconne. C'est là qu'une fois par an, je me ressource, je lâche prise, je rigole et je danse. Et après avoir bien décompressé, mieux reprendre pendant un an nos six sérieuses émissions d'histoire et de politique qui font rien qu'à parler de trucs pas drôles. Or, en 2016, traumatisme. Au Quart de Tour, qui plante ses chapiteaux dans le lit du Cher, une zone inondable, le festival trentenaire qu'on croyait indéboulonnable, acquis jusqu'à la fin des temps, notre festoche a été annulée pour cause d'inondation et de chair en crue. En ce début d'été 2016, j'ai pas eu mon au quart, j'ai pas dépressurisé. Et ça m'a bouleversé de réaliser la fragilité d'un événement qui, depuis près de 30 ans d'éternité, fait partie de mon biotope, de mon cycle annuel. Pour vous raconter tout ça, vous voilà donc chez moi, à Tours, région centre, Indre-et-Loire. En voiture, direction Radio Béton, à Tours Nord. Sur l'autoradio, c'est bien évidemment le 93.6, la fréquence à béton, où il y a toujours une merde technique, genre platine qui marche pas. C'est normal, c'est là tout le charme de la radio rock.
Je suis médusé, voilà. En tout cas, ça me permet d'en profiter pour dire... Alors, je vous l'avais bien dit, franchement, Seeds of Mary, Ghost avec Kurt Cobain. Vraiment. Bon, bah, du coup, comme j'étais en train de préparer la suite, je n'ai absolument rien de prêt, donc on va vite continuer à écouter ce qui est en train de passer. Je sais pas quel morceau c'est. C'est toujours Mastodon, ça doit être le morceau Blue Gulch.
Radio Béton de m'avoir fait découvrir plein de trucs et notamment le son qui m'enthousiasme et me porte depuis l'édition au quart de tour 2017 où les deux DJs de Octave One nous ont connectés au cosmos en nous faisant danser comme des tarés. Octave One qui depuis 1990 sévit à Détroit, le bastion d'Underground Résistance. Octave One, live à au quart.
Et la possession commence. Et la possession commence. Et la possession commence. Lentement, par le pied gauche, puis par le pied droit. Le pied gauche, pied droit. Elle monte par les mains, les bras, les épaules et la tête. Et la tête. Et la tête. Et la possession commence. Et la possession commence. Et la possession commence.
Bonjour, c'est JBD. Vous voilà donc arrivé à Radio Béton, créé à Tours en 1986, tout comme le festival au quart de Tours. Béton est installé depuis la fin des années 80 dans des locaux municipaux à l'espace Gentiana, centre social et de loisirs. Et au deuxième étage, il y a un bureau béton surpeuplé. Et le studio est au troisième, sous les combles. Pour y monter, il y a une volée de marches d'un escalier en béton qui doit être l'un des endroits les plus déprimants que je connaisse.
Bonjour.
Ça va?
Dites pas trop de conneries, il y a le magnéto qui tourne. La belle blonde.
Bah ouais, ça va et toi?
Macron t'as toujours pas viré?
Toujours pas.
Fainéant. Fainéant.
Comment vous allez bien?
Fainéant. Fainéant.
Je vous l'avoue et je vous le répète, il se trouve que cette semaine, j'ai pas grand-chose à vous dire, en tout cas rien de transcendantal. Pourtant, je croyais vraiment avoir des trucs intéressants à partager avec vous au sujet des musiques actuelles, des concerts qui aujourd'hui me redonnent du plaisir, après m'avoir assez peu intéressé pendant près de 20 ans. Je voulais vous causer de cette impression d'avoir traversé à partir du début des années 2000 presque deux décennies d'électro-encéphalogramme musicalement plat, après une enthousiasmante et créative décennie 90 qui a vu dans le désordre le décloisonnement des genres musicaux avec ce qu'on a notamment appelé la fusion. Là, les rockers se sont mis à causer à ceux qui écoutaient du reggae, par exemple. Il y a aussi eu pendant les années 90 l'accès de masse à l'informatique qui a permis la création de nouveaux styles musicaux et électroniques, le trip-hop, la jungle, la drum and bass. Les années 90, c'est aussi une explosion du nombre des productions avec la démocratisation des home studios qui va se poursuivre dans les années 2000. Et puis la fin des années 90, c'est aussi l'apparition d'Internet qui permet de diffuser facilement ses créations sans forcément passer par maisons de disques et radio. Et après ces très riches années 90 qui m'ont donné la sensation de création frénétique et tous azimuts, après la fin de l'explosion de la drum and bass, j'ai donc eu le sentiment, vers le début des années 2000, que rien ne se créait plus, que tout n'était que redites et courants musicaux qui se recyclent en se mordant la queue. Du coup, pendant près de 20 ans, je suis allé au festival au Car, pas tant pour voir des groupes, mais surtout pour voir mes potes, car le cadre super convivial du festival permet vraiment ça, et pour seulement 30 euros pour 5 jours de festoche, autant vous dire un tarif qui n'existe pas pour un festival qui, d'un point de vue comptable, n'existe pas. On va revenir sur les chiffres tout à l'heure. Et puis, depuis 2 ou 3 ans, est-ce que ce sont mes chakras musicaux qui se sont à nouveau ouverts ? Pourquoi est-ce que ces dernières années, les musiques actuelles, comme on dit, me semblent à nouveau intéressantes ? Y a-t-il plus de groove qu'avant ? Est-ce que le nombre et le niveau technique des musiciens a sensiblement monté ces dernières années ? Comment se fait-il que je kiffe à nouveau la musique ? À moins que ce ne soit la musique qui ne se soit remise à me kiffer. Et d'abord, y a-t-il des réponses à ces étranges questions qui n'en sont peut-être pas vraiment ? Pour essayer de parler de tout ça, vous voilà installé dans une petite pièce à côté des bureaux de Radio Béton. Et votre invité s'appelle Enzo, qu'on dit être l'un des programmateurs du festival. Mais c'est pas exactement ça. Et c'est à lui donc que je vais faire part de mes vagues questions existentialo-musicales qui n'en sont pas vraiment et qui n'ont donc pas forcément de réponse. Salut Enzo.
Salut JBD.
Bon alors Enzo, au moment de cette conversation, on est en octobre 2017, à plus de 6 mois de la 33e édition du festival au quart de tour. On dit parfois de toi que tu es le programmateur du festival. Alors on pourrait s'imaginer une espèce d'empereur romain qui s'écoute des piles de disques de groupes postulant au festival et qui, pouce levé ou baissé, dirait « Ah ça, oui, ça, non ». Or, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Alors, qu'est-ce qui est marqué sur ta fiche de poste ?
Sur ma fiche de poste, c'est pas marqué programmateur de quart de tour. Je suis chargé de production. Chargé de production, c'est un peu un mot valise pour dire homme à tout faire. Comme je suis plus maintenant, mais j'ai longtemps été le seul salarié au quart sur l'année. Maintenant, il y a Nathan avec moi qui s'occupe plutôt de la partie communication. Comme j'étais le seul salarié, donc à travailler vraiment à plein temps sur le festival, je me retrouve référent d'énormément de domaines sur lesquels je vais récupérer les infos, travailler dessus ou pas. Mais en tout cas, je vais être le carrefour des informations que ensuite je vais redistribuer à toute une volée de bénévoles plus compétents les uns que les autres qui, eux, vont être compétents dans un petit domaine du festival. Et c'est comme ça que le festival se construit. C'est grâce à, on va dire, une dizaine de bénévoles référents, Pascal Robert à leur tête. Mais comme moi, je suis là 8 heures par jour, ben, c'est moi qui ai d'abord toutes les infos. Et si je peux le faire, je le fais. Si je peux pas le faire ou si c'est quelqu'un d'autre qui est censé le faire, dans ce cas-là, cette information, je vais l'envoyer à qui de droit. Voilà.
Lexique. Pascal Robert avec sa compagne Véronique, deux membres historiques de la bande de jeunes cons insolents qui, en 1986, créent Radio Béton et le festival au quart de tour, ce qui va donner naissance à deux associations sœurs, Radio Béton et donc
Béton Production, donc la branche qui organise les concerts. Mais il y a deux associations, mais c'est vraiment surtout une histoire administrative. À un moment donné, on a été obligé, enfin je dis on, mais j'étais pas du tout encore là, hein, je suis arrivé il y a 6 ans. À un moment donné, l'association Radio Béton a dû se séparer de ce côté organisation de concert pour de basses raisons monétaires, c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à la fois des subventions à telle hauteur pour le fonctionnement d'une radio avec tout ce que ça implique. Enfin voilà, c'est des cases à remplir dans des dossiers de subventions et il a apparu à un moment donné qu'il fallait séparer les deux. Mais c'est des assos sœurs jumelles, on est tous dans les mêmes bureaux. Moi, je suis aussi animateur sur Radio Béton, j'écoute les disques comme tous les autres animateurs de Radio Béton. Je participe à la vie de la radio, quoi, tout comme Nathan, qui est aussi chez Béton Productions. Et je suis complètement poreux, si on parle de programmation. En tout cas, j'essaye d'être complètement poreux à ce qui peut aussi toucher les autres animateurs de Béton. C'est ce qui fait la force de Béton, c'est qu'il y a plein de personnalités, tous programmateurs de la radio, contrairement à énormément de radios qui sont entre les mains d'une seule personne. Du coup, forcément, la couleur musicale peut s'en ressentir. Voilà.
La programmation, dont tu n'es pas le seul responsable, est un des aspects de ton boulot. En fait, quand tu dis qu'il y a plein de gens qui sont référents sur plein de trucs, c'est-à-dire qu'on parle de logistique, on parle de chapiteaux, on parle de nourriture.
Ouais, c'est assez énorme finalement le travail que ça peut représenter, 5 jours de festival, avec on va donner des chiffres.
Alors financièrement, comment font-ils en quelques chiffres ? Au quart de tour 2017, c'était par exemple...
En tout, le festival coûte entre 350 et 400 000 euros. Et l'artistique est entre 90 et 100 000 euros.
pour payer 30 groupes répartis sur 5 soirées, chaque soirée accueillant entre 3000 et 5000 festivaliers. Et l'un des trucs qui fait exister ce festival, qui n'existe pas sur le papier d'un point de vue comptable, c'est le travail gratuit et parfois toute l'année de près de 150 bénévoles. L'huile de coude, ça n'a pas de prix.
C'est du monde à gérer, c'est de la logistique et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui sont là-dessus. Sans parler bien sûr de tout le côté technique à gérer en amont. Et heureusement qu'il y a une équipe, parce que je ne suis pas du tout compétent sur tout ce qui est technique. Faire la bouffe pour 150 personnes, pour moi, ça relève de la magie. Donc c'est ça qui fait qu'au CAR ça marche, c'est qu'il y a une équipe ultra compétente et pour la plupart en plus bénévole. C'est assez rare, je pense, à ce point-là. Donc il y a un seul salarié, deux maintenant, et que des bénévoles derrière pour faire tourner cette petite machine. C'est pas une grosse machine au quart de tour, mais c'est quand même déjà un beau projet, et surtout sur une durée qui est assez longue. Quoi. Ça représente sur place, du début du montage jusqu'à la fin du montage, ça représente 15 jours.
Vous avez le droit à 5 soirées pour 30 balles. En fait, c'est économiquement un festival qui n'existe pas, en fait.
Qui peine à exister, malheureusement. Mais c'est des tarifs qu'on applique depuis longtemps, même si on a augmenté un tout petit peu, je crois, il y a 3 ans. Et on se rend compte que c'est ça, ça devient de plus en plus compliqué à tenir.
Avant d'aller plus loin avec Enzo, retour sur l'un des très nombreux et très agréables moments d'Ocar 2017. C'est le mois de juin, il fait bien chaud sous l'un des deux chapiteaux du festival, où sur scène ont surgi 3 grooms en uniforme, genre Spirou. C'est le brillant trio danois Who Made Who, fondé en 2003. Il y a seulement 3 musiciens, Who Made Who envoie une élégante pop house rock extrêmement dansante et pleine d'harmonie, de vraies chansons bien écrites, parfois presque lyriques. Comme a aussi pu la synthétiser LCD Sound System, Who Made Who pourrait être une sorte d'heureuse rencontre entre les Talking Heads et la house music et plein d'autres courants intelligemment digérés avec beaucoup de personnalité. Who Made Who live, on a sué car on a dansé. Made Who, live à Au Quart de Tour 2017, bonheur de danse et de fraîcheur house pop dans la moiteur de juin. Mais un an plus tôt, en 2016, ça a été une toute autre chanson, car le festival, je vous le disais, est installé en zone inondable, pleine de la Gloriette, dans le lit du Cher, qui est l'un des deux cours d'eau qui bordent la ville de Tours, l'autre étant la Loire, où le festival a d'ailleurs vu le jour en 86, sur une île qui s'appelle l'île Au Quart, d'où le nom de l'événement, Au Quart de Tour. Bref, énorme coup de bourdon pour mal démarrer cet été 2016. L'immuable, l'éternel, acquis pour toujours, festival Au Quart de Tour n'a pas eu lieu pour cause d'inondation, Enzo. Ça a été dur.
Le mardi soir a joué et c'est le lendemain sur les coups de, on va dire 16-17 heures, donc 2 heures avant d'ouvrir, le deuxième soir, qu'on a eu un arrêté préfectoral qui nous a dit... c'est mort, gros risque d'inondation, il faut démonter dans l'urgence, puisque d'ici demain, max après-demain, il y a jusqu'à 2 mètres d'eau sur la plaine de la Gloria.
Triste flashback sur cette annulation de car. Voilà donc en juin 2016, plaine de la Gloriette avec Joël, le chef jardinier du jardin pédagogique de la Gloriette. Avec les cuissardes, on va se retrouver avec de l'eau jusqu'aux genoux.
Alors faut qu'on vous dise le paysage là qu'on aperçoit depuis la maison des animateurs et des jardiniers de la Gloriette est tout à fait hallucinant quoi. C'est un lac. Et au milieu du lac, il reste encore un des chapiteaux de la 31e édition du festival au quart de tour, qui n'a eu donc lieu qu'un seul soir. Et ce chapiteau, l'équipe de Radio Béton n'a pas eu le temps de le démonter encore. Donc il reste là avec ses mâts plantés dans l'eau. C'est assez surréaliste d'ailleurs. Plutôt joli et onirique comme vision. Enfin, très concrètement, c'est très embêtant quoi. D'ailleurs, aux dernières nouvelles, on se demandait si au quart de tour n'allait pas mettre la clé sous la porte.
Oui, bah, a priori, c'est sûr que pour eux, 3-4 jours de montage, ça sous-entendait que le démontage était au moins tout aussi long, voire un tout petit peu plus court, mais que c'était pas instantané dans tous les cas. Et là, il est vrai que cette annonce de crue et la rapidité avec laquelle l'eau est montée, on s'y attendait pas forcément non plus.
Enfin, on est surpris sans l'être, parce que ici, on est entouré d'eau, c'est-à-dire qu'on a le Cher qui est là-bas, on a un bras du Cher qu'on appelle le Petit Cher. Et puis, globalement, de toute façon, l'eau, elle est aussi sous nos pieds. Même quand il n'y a pas de crue, l'eau, elle est quoi, 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres sous nos pieds?
Oui, la nappe est 1 mètre, 1 mètre 50, effectivement, en été. Hein, donc ça, c'est vraiment le stade le plus bas, enfin, la hauteur la plus basse qu'on puisse retrouver. Après, bah, voilà, la Gloriette, c'est une terre d'eau. Donc, bon, voilà, on sait que c'est une plaine inondable. À un moment donné, nous, on fait des choses sur une plaine inondable. Donc, voilà, quand la nature se manifeste, on n'a pas d'autre choix que de se dire, bon, bah, voilà, c'est nous qui avons essayé de faire des choses sur une zone peut-être à risque. Nous, on le fait, on va dire, de façon légère, light, avec de l'événementiel. Maintenant, quand on sait qu'à l'échelle nationale, ça peut aussi arriver avec des habitations, là, c'est une autre problématique.
Alors là, bah, on commence déjà à marcher dans l'eau. D'habitude, bah, ça c'est un chemin qui est tout sec, qui nous emmène bah, voilà, jusqu'à cette plaine où régulièrement je m'émerveille, vous savez, à chaque printemps, parce qu'il y a des jolies fleurs qui poussent, tout ça. Alors là, les jolies fleurs, elles sont sous la flotte. Hein. Et là, on n'est donc plus sur un chemin sec, on est déjà en train de marcher dans l'eau.
On a eu les boules qui collaient au papier en ce mois de juin 2016 et c'est là que j'ai réalisé que je n'aurais pas droit à mon indispensable soupape de décompression annuelle. Ma semaine de teuf de l'année m'a cruellement manqué. Vilaine impression de rester constipé de la tête par manque de danse et de musique. Et ça m'a mis de fort mauvaise humeur, d'autant plus que notre éternel festival allait peut-être bêtement mourir noyé, Enzo.
Ça a été un coup assez dur hein, à ce moment-là. On n'a pas trop eu le temps de réfléchir, on a dû démonter. En même temps, il fallait gérer l'annulation des groupes sur toute la semaine, donc ça représentait les 3/4 de la programmation. Ça représentait pas loin de 26 groupes à annuler, à appeler, c'est des sommes qui peuvent être engagées aussi de la part d'artistes, de toute cette économie autour des artistes qui peut être fragilisée avec des annulations comme ça. Ça va, on n'est pas rock en scène, on ne parle pas de millions d'euros, mais quand même, justement, c'est parfois des petits groupes qui sont à un cachet près, surtout quand ils viennent de loin. Bref, il y a eu beaucoup de choses, des belles choses aussi qui se sont faites sans qu'on ait le temps de s'en occuper, des concerts de soutien dans les bars de la part de beaucoup d'acteurs culturels locaux, de beaucoup de groupes, beaucoup de musiciens qui ont fait plein de choses, notamment toute la carte blanche du mercredi soir de Gauchise, qui fêtaient leurs 5 ans. Normalement, on leur avait donné une carte blanche sous le petit chapiteau ce jour-là, et du coup, ils ont rapatrié toute leur carte blanche au Canadian Café. C'était pas du tout possible, normalement, mais là, ça s'est fait. Ça nous a permis, en sortant du démontage, rincé et complètement 6 pieds sous terre, d'aller se mettre une bonne cuite bien salvatrice, histoire de renchaîner sur le démontage le lendemain avec une belle barre dans le crâne, mais qui permet de pas réfléchir comme ça. Donc, on a vraiment passé le démontage en mode machine, sans réfléchir. C'est après que le coup dur est vraiment arrivé, avec aussi forcément un bilan financier catastrophique. C'est la première fois que j'ai vu Pascal et Véronique Robert, donc le couple mère du festival, aussi atteint. C'est des gens qui expriment pas grand chose, même s'ils sont très sympas.
Ils sont très stoïques et plein d'humour.
Voilà, ils sont très stoïques et avec beaucoup de, oui, voilà, beaucoup d'humour, un peu noir, voilà. C'est des gens super, mais ils expriment pas grand chose. Et là, je les ai vus vraiment atteints, quoi. Et ils m'ont dit plus tard que pour eux, c'était un signe qu'au quart, fallait que ça s'arrête parce que c'est normal. Ça fait 30 ans qu'ils font ça, plus de 30 ans. C'est fatigant d'être bénévole pendant 30 ans sur un seul et même projet. Et ils ont bien failli jeter l'éponge à ce moment-là.
À peu près tout le monde a vécu cette inondation comme un traumatisme. Mmh. Ici aussi, ça m'a remis un peu les pendules à l'heure. Le truc en plus vraiment embêtant, c'est que je me suis rendu compte que dans mon cycle naturel annuel, mon ocar n'a pas eu lieu. Et ça m'a manqué épouvantablement. Et je pense que j'ai été vraiment en rogne où voilà, il m'a manqué quelque chose jusqu'au mois d'août. Et au mois d'août, à mon sens, il s'est passé quelque chose d'absolument magique. Comment il s'appelait d'ailleurs ce festival ? Qui est revenu sur, en plus, aux origines, c'est ouais. Ça qui est extraordinaire.
Il s'appelait Ocar is not dead. Un festival qu'on a organisé en un mois et demi. Après le démontage, le bilan, vraiment, c'est... Les Robert étaient au fond du gouffre. Et n'étaient vraiment pas sûrs de savoir comment faire pour remettre le festival à flot, pour remettre le festival sur les rails. Beaucoup de bénévoles ancestraux, très tristes, mais en même temps fatigués. Du coup, moi, je suis arrivé avec cette idée-là de, ici, il faut remettre des ronds dans les caisses. Faire un crowdfunding, c'est bien, on en a fait un, ça a ramené un peu d'argent, ça a quand même ramené 10 000 euros, mais là, on parlait de 200 000 euros de déficit. Ce qu'il fallait faire, c'est refaire un festival en demandant aux artistes du coin ou aux artistes qui aiment bien Ocar, en demandant aux techniciens qui viennent bosser depuis le début ou pas loin sur le festival, à tous les prestataires qui ont grandi, je pense notamment à Scène de Nuit, qui a grandi en même temps que le festival. C'est une boîte de location de matériel, de spectacle qui a grandi en même temps que le festival, qui se construit en même temps et ils sont partenaires depuis le début. Bref, en demandant à tous ceux qui font le festival, qui sont partenaires financiers, d'aider à faire ce festival de soutien qui coûte le moins cher possible et que on puisse réussir à rentrer un max d'argent parce que c'est exactement ce qu'il nous fallait à ce moment-là. Enfin, fallait payer énormément de factures. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens ont joué le jeu, pour ne pas dire tous. Beaucoup d'artistes ont répondu alors que je les prévenais un mois avant sur une période ultra chargée en termes de festival et tout ça. On a fait ça à la mi-août sur un week-end de 3 jours. Et on a réussi à regrouper pas mal de groupes tourangeaux, notamment des groupes assez phares, je pense notamment au Chill Bump, à aller chercher aussi quelques groupes qui sont passés par le festival peu de temps avant et qui ont fait l'effort de venir alors que, je sais pas pourquoi ils ont fait l'effort, ils ont dû avoir quelque chose quand ils sont venus jouer sur Ocar. Je pense aux Dezen, qui n'ont pas besoin de se rajouter des dates sur leur tournée déjà à la gueule et qui ont trouvé un temps pour venir. Enfin voilà, ça c'est pour les têtes d'affiche. Et puis il y a eu plein de groupes tourangeaux qui, dès qu'ils pouvaient, il y en a plein qui pouvaient pas parce que voilà, c'était prévenu un peu tard, mais dès qu'ils pouvaient, ils venaient bien sûr, quoi, on va venir. Du coup, ça nous a permis de faire une programmation en un temps extrêmement court, d'organiser tout ça grâce, pareil, à une avant-garde, une nouvelle génération du festival. Je pense à Sébastien Garcia qui s'est occupé de toute la régie générale parce que Cédric était pas là, était pas dispo. D'habitude, c'est lui qui fait ça. Sébastien Garcia, il a 27 ans, je crois. C'est un monstre en régie, il a tout appris avec Cédric, et c'est lui qui s'est occupé de tout ça. On était en pleine période d'attentat, il y avait une Nice juste avant, c'était très chaud sur une île où il n'y a pas de sortie pour évacuer le public, c'était une galère sans nom, et on a réussi à faire tout ça en un temps, on n'a pas beaucoup dormi, je suis souvent tombé malade au mois de juillet parce que j'étais vraiment sur les genoux, mais après ça valait le coup, quoi, quand il s'est passé ça, le public a réagi de fou, on s'était blindé tous les soirs, et... On n'a pas gagné 200 000 euros, mais on a eu plein d'autres bonnes nouvelles entre-temps. Mais ça a permis déjà de faire une impulsion, de montrer qu'on ne se laissait pas faire et rabaisser un tiers de notre déficit. Donc on s'est pas juste assis en pleurant auprès du public et auprès des subventionneurs en disant « oui, ça serait bien de nous donner de l'argent ». On s'est sorti les doigts et je pense que ça a aidé aussi à ce qu'on ait d'autres bonnes nouvelles derrière. Qu'on montre qu'on était de bonne volonté, qu'on n'était pas mort.
Pour en revenir à la situation vue de ma fenêtre, pas d'Ocar, effectivement, avec cette menace de Ocar, c'est mort, quoi. Ça y est, là, c'était l'an dernier, c'était la dernière édition, donc je suis rentré chez moi bien plombé. Et puis, la bonne nouvelle, Ocar not dead. Et tu dis, sur une île, mais pas sur n'importe quelle île.
Pas sur n'importe laquelle.
Le grand retour du festival sur l'île Ocar. Un retour aux sources, un retour sur l'île Ocar du festival Ocar de Tours. Quand je vais manger chez les gens, je mange pas tant ce qu'il y a dans l'assiette, je mange l'intention qu'ils y ont mis. Et moi, ce que j'ai surkiffé, c'était justement le côté not dead. La vieille créature qu'on croyait moribonde se donne un bon vieux coup de rein des familles parce qu'il y a de l'huile de coude et de la bonne volonté et puis beaucoup d'amour derrière tout ça. Et ça, moi, je l'ai bien reçu.
Je tiens à préciser d'ailleurs à la foulée que j'ai subventionné avec force peinte. Enfin, je subventionnais pas au demi, moi.
Beaucoup de gens ont subventionné. On a fait des scores au bar complètement hallucinants. Je crois qu'on n'était pas loin du Hellfest qui, eux, ont vraiment, pas en termes de volume, mais en termes de consommation par personne, qui ont vraiment des bonhommes entraînés toute l'année. Là, les gens se sont donnés vraiment. Hein, et pour avoir discuté avec les bénévoles au bar, les gens venaient en rigolant pour ça, mais ils avaient envie de se mettre la tête à l'envers et ils avaient une très bonne excuse pour le faire. Voilà, c'était oui, ben peut-être que demain j'aurai mal au crâne, mais c'est pour sauver au cas. Remets-moi un pichet, remets-moi une pinte. Et c'était ça non-stop. C'était drôle. Il y avait une ambiance incroyable.
Ben moi j'ai adoré cette énergie primale du festival au car. Voilà, qui sait se montrer au bout de 30 années très fonctionnel, très parfait. Enfin parce que je connais peu de festivals qui accueillent leur public comme ça.
C'est vrai, mais en même temps, vu de l'intérieur, parfois, on se dit aussi, putain, la vache, ça fait quand même 30 ans qu'on organise ce festival et il y a toujours des trucs qui sont faits à l'arrache, mais ça fait partie de son charme.
Au Car is Not Dead sur l'île au Car, moi je l'ai adoré parce que pour moi il y avait un retour aux sources, il y avait une énergie et il y avait aussi, on va peut-être aussi pas mal parler de DIY, hein, le DIY, le do it yourself, le fais-le toi-même. Et ben ouais, au fin fond de l'adversité, avec des bouts de scotch, des bouts de ficelle, de la bonne volonté et beaucoup d'amour entre tout le monde, et ben non, la créature se donne un coup de rein et se remet la tête à la surface. Et ça, je crois qu'on l'a tous goûté, quoi.
Ouais, c'était vraiment... j'ai un peu du mal à en parler également. Je pense qu'on n'a pas du tout vécu le même festival, c'est normal.
Parce que... Ah bah non, parce que moi j'ai une règle d'or, je suis adhérent Radio Béton et tout ça, mais alors j'ai une règle d'or en ce qui concerne nos cars. Je ne travaille pas sur Au Car de Tours. Si je me balade avec un magnéto, je raconte des conneries avec des gens pour faire de la radio béton ou j'écris des trucs. Mais depuis 30 ans, moi, le festival, je le savoure. Mais il faut être barjot pour travailler Au Car de Tours. En fait, évidemment, ça me pose un problème. Je suis de 69. Peut-être quelle année, Enzo, toi ?
Moi, je suis de 87.
Moi, je suis de 69 et j'ai quand même un problème. C'est que, comme disent les gens, les vieux qui ont mon âge, Au Car, c'est un peu Club Mickey. Et tous mes potes vieux de mon âge, ils sont derrière les bars.
Non, mais oui, eh.
Et tiens, puisque justement on parle de vieux et de musique de vieux, on a parlé de ces groupes qui très généreusement ont filé un coup de pouce à Au Car, sont venus travailler à Au Car Is Not Dead, parce que c'est quand même du travail. Vous savez que les musiciens...
Ils ont besoin de manger.
Oui, des fois ils ont même des factures d'électricité.
C'est incroyable.
Donc c'est une chose extraordinaire qui s'est passée là. T'as parlé de Chill Bump tout à l'heure. Moi je me souviens avoir très très bon DJ électro qui mixait à la Smala, qui est une association pas mal orientée autour du reggae qui, depuis des années maintenant, plante en fait sa caravane à crêpes au milieu d'Au Car. Et puis c'est bien, ça fait un autre spot. Enfin bon, voilà. Tout ça pour parler de musique de vieux, bah, y a des gens, moi, que j'ai vus sur scène, que je voyais déjà quand j'étais petit, que t'étais même pas né, Enzo, Jackpot et The Reactors, qui eux aussi étaient là, fidèles au poste.
Jackpot. C'était là la toute première édition sur les Locars, je crois bien, ouais. Donc là, pour le coup, la boucle était bouclée.
Et invité à l'époque, comme en 2016, par Radio Béton, et ça tombe bien, on va s'écouter un des tubes de Jackpot et The Reactors, c'est Baisse la radio.
Bon, merci aux radios qui passent des trucs sympas.
Baisse la radio, Jackpot et les Reactors, ils étaient sur la toute première édition du festival au quart de tour en 86, Enzo, sur l'île au quart. Et puis, bah voilà, 30 ans plus tard, non?
Mais c'était la 31e édition. Alors, je sais pas où est-ce qu'à un moment donné, il y a eu deux au quart en une année. Une année bénie, peut-être.
Ou alors, c'est que je suis nul en maths.
Moi, je suis nul en maths aussi, donc c'est possible qu'on est en train de se planter et que les auditeurs se foutent de notre gueule.
Non, mais ça, voilà. Pascal Robert a déjà fait des théories là-dessus. C'est toujours très compliqué que quand tu rentres dans l'année de ton anniversaire, il y a un chiffre de plus, de enfin, tu vois, c'est des trucs comme ça.
Ouais, ouais.
Bah, finalement, c'était aussi cette édition Ocar is not dead sur l'île Ocar. Et bien, le signe que non, grâce à l'huile de coude et à l'énergie positive que les bénévoles, que tout le monde a su insuffler dans le truc, et ben Ocar est reparti. Bah tiens, on va même citer un politique pour qui j'ai pas voté, mais enfin, ce qui a valu quand même que je traverse la moitié du festival pour aller lui serrer la louche, c'est l'ancien député d'Indre-et-Loire, Jean-Patrick Gilles, qui a fait un petit chèque aussi pour qu'Ocar continue à flotter un peu.
Ouais, 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 on a eu deux enveloppes parlementaires, on a eu lui et Marie-France Beaufils, deux personnes qui nous ont donné de l'argent, alors qu'a pas été utilisé, parce que le temps que ça arrive, c'est très long l'administratif, donc qu'a pas été utilisé vraiment pour Ocar is not dead. Pour être complètement transparent, on s'en est rendu compte que ces deux chèques parlementaires, ben, en fait, on n'en a pas eu besoin à la fin de l'année. Elle est tombée cette année-là, en 2017. Fin 2016, les gars, on est revenu à zéro, bravo, on s'est serré la pince. Mais du coup, ces 20 000 euros là, qui vont nous filer les deux parlementaires, qu'est-ce qu'on va en faire? C'est pas très honnête de se le garder pour nous. Du coup, on a voulu organiser la soirée au Cardi Merci, au 37e parallèle, un peu avant le festival de cette année.
Et ça, c'était vachement bien, avec un très très beau plateau, surtout pour les vieux, des groupes mythiques. Il y avait Les Motivés, un groupe aussi qui me touche beaucoup. Il y avait ce trio infernal et courageux des rappeurs de la rumeur. À partir de quand vous vous dites, ça y est, en fait, on n'est plus dead?
Déjà, après le festival de soutien, on sentait que ça sentait bon. Fin août également, c'était la limite pour demander les remboursements des places d'Ocar et on s'est rendu compte qu'énormément de gens n'ont pas demandé de remboursement. Donc ça aussi, ça a absorbé, parce qu'on avait compté rembourser les gens dans les 200 000 euros de dette. Ça aussi, ça a vachement diminué. On était encore en discussion avec pas mal de groupes et il y a énormément de groupes qui sont assis sur leur cachet ou alors qui ont juste demandé remboursez-nous les billets de train qu'on a pris ou voilà, enfin le minimum pour pas qu'ils perdent d'argent, normal. On a eu des aides, notamment du CNV, qui nous a filé pas mal d'argent, un petit peu, de la ville et de la région. Ouais, courant novembre, début décembre, on sentait que voilà, ça allait le faire et qu'on allait pouvoir repartir en 2017, qu'on allait pouvoir refaire une édition en 2017. On savait pas encore sous quelles conditions, est-ce que ça serait tranquille? Non, c'était pas le cas, mais on a pu faire presque comme si c'était rien passé, c'est assez incroyable.
Et du coup, cette édition 2017, votre humble serviteur l'a goûté, mais alors comme vous pouvez pas imaginer, j'ai passé une semaine... Et alors même quand j'ai dessoulé, même quand je me suis un peu calmé après une semaine de festival, je trouvais que le moment que j'avais vécu était toujours aussi bien, quoi. Grand moment de qualité, je vous ai parlé de moments de magie. Tiens, d'ailleurs, il y a un truc qui m'a marqué et qui faisait pas partie de la programmation officielle de Garde Tour. Alors que je m'apprêtais à aller voir Chevalienne, dans un endroit qui s'appelle le Chapiteau à Kéké, sur Ocar, vous avez plein de micro-univers comme ça, c'est ça qui est bien. On a parlé de la caravane à crêpes, de la Smala. Et alors que je m'apprêtais à aller voir Chevalienne, je suis tombé sur ce duo tourangeau d'électro afrobeat. J'appelle ça du white electric vaudou. J'ai dansé, donc je suis désolé, j'ai raté Chevalienne, je sais pas à quoi ça ressemble.
C'était très bien Chevalienne, mais tu as vu Perroquet et c'est cool, un des premiers concerts qu'ils ont fait, je crois.
J'ai groové ma race comme un bâtard pendant une heure sur Perroquet en dansant comme sur Houmedou. J'ai beaucoup dansé cette année à Ocar. Ça faisait partie des bonnes surprises et puis j'ai envie qu'on s'écoute, tiens, Sarah Road.
Yeah.
Perroquet, groupe qui n'était pas programmé à Au Quart de Tour, mais peut-être que ça arrivera un jour.
Tout à fait, tout à fait. Ouais, c'est ça qui est drôle sur Au Quart de Tour, c'est qu'on parle souvent de la programmation qu'on retrouve sous les deux principaux chapiteaux. Mais il y a plein de choses que, à béton, enfin, en tout cas, si on parle du comité de programmation, donc Pascal, Rémi et moi, on ne maîtrise pas du tout. Donc toute la programmation du côté du chapiteau de la Smala, qui commence en plus à être de plus en plus structurée. Maintenant, on arrive à savoir un peu ce qu'ils font avant. Avant, c'était pas le cas. Nous, on savait vraiment pas ce qui s'y passait. Ils faisaient vraiment jouer les gens, leurs potes. Maintenant, ils essayent de le faire plus en amont. On essaye de l'intégrer à la com et tout. Enfin, on sait que c'est un espace très important pour beaucoup de gens et eux aussi commencent à le comprendre, je pense. Et du coup, on a envie de faire ça bien maintenant. Mais c'est eux qui vraiment gèrent entièrement leur espace, leur programmation et tout ça. Donc, ça donne aussi une autre esthétique. Ils font pas mal de choses auxquelles je suis pas du tout sensible et c'est très bien qu'ils soient là pour le faire. Et il y a aussi Keke qui aime bien inviter des gens sans nous prévenir. Moi, je l'ai appris qu'après que Perroquet avait joué sur le chapiteau de Keke. J'étais d'ailleurs dégoûté parce que j'aurais bien aimé les voir.
J'ai raté quelque chose, mais...
ouais, j'ai raté quelque chose, mais j'espère les revoir. Ils sont tous rangeaux, hein. Ce sera pas, ils font pas beaucoup de concerts, mais en tout cas, j'ai bien rongé leur EP dont on vient d'écouter un extrait là. Parce que ouais, c'est vraiment bien ce qu'ils font.
Parler musiques actuelles, comment se fait-il qu'elles me stimulent à nouveau après 20 ans de désintérêt ? L'informatique, Internet et la démocratisation des home studios ont certainement fait exploser l'offre et la qualité musicale. Et puis peut-être qu'avec les écoles de musique, le nombre et le niveau technique des musiciens a aussi bien monté. Il y a de plus en plus de très bons icos qui savent jouer, comme on dit. Et qui ont eu le temps de s'approprier et de digérer intelligemment des décennies de musique pop, du blues jusqu'à la tech.
Moi, je t'avoue que je théorise pas énormément la musique, j'essaye.
C'est quoi pour que j'ai kiffé ma race pendant cette dernière édition ?
Moi, je dirais déjà peut-être parce que t'étais quand même très frustré de l'année dernière. Et du coup, en plus, beaucoup de gens étaient très frustrés de l'année dernière, parce qu'il y avait vraiment une ambiance vraiment particulièrement bienveillante. Sur cette édition, en plus il a fait très beau, hein. Dieu merci, parce qu'on avait mis quand même un cactus qui fait fuck sur notre affiche, donc il aurait plu toute la semaine, on aurait l'air bien con. Mais bref, il a fait très beau, il y a eu une très bonne ambiance. Je vais pas dénigrer ma propre prog, hein. Je vais pas te dire qu'on a fait jouer des trucs de merde. Bon, j'ai trouvé ça très très bien aussi. Je sais pas si c'était mieux que l'année encore d'avant. Moi, je garde un excellent souvenir de la 30e édition qui avait aussi vraiment super. Je sais pas si il y avait des meilleurs concerts qu'il y a 2 ans, il y avait des meilleurs concerts qu'il y a 3 ans. Je sais pas, je suis pas sûr, je pense que toutes les éditions sont différentes, même si on essaye de garder un peu la même recette, c'est-à-dire de mélanger un maximum de choses sur une seule soirée, pour que les gens ouvrent leur chakra finalement, pour éviter que les gens aillent voir que ce qu'ils savent qu'ils aiment. Donc, ce qu'on veut faire sur Rockard, c'est qu'ils découvrent des choses qu'ils pensent ne pas aimer et qui finalement vont bien aimer. Donc, apparemment, ça a vachement bien marché sur toi cette année, génial. J'espère que ça marchera encore l'année prochaine, mais c'est pas sûr.
Pendant longtemps, c'était une erreur de stratégie pratiquée par Ocar dans sa prog. Et jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait la soirée hip-hop, la soirée rock'n'roll, la soirée machin. Évidemment, la soirée électro, c'était là où ça déchirait et tout. Bah, c'était cantonné, c'était encore ségrégué. À certains égards, c'était ce qui se passait quand j'étais petit dans les années 80. Hein. Les hardos ne parlaient pas aux mecs qui écoutaient Bob Marley, qui eux-mêmes ne parlaient pas aux mecs qui écoutaient Supertramp. Bah, y a eu aussi toute cette éducation hein, que Radio Béton et que les radios comme ça et que les festivals comme ça font. Et tu parlais justement de, bah oui, tu choisis pas ta soirée parce que tu choisis pas ton style, tu vas être confronté à des choses que tu connais pas. J'ai pas une grande culture métal et je me suis fait cueillir, mais comme une fleur, cette année, un trio absolument extraordinaire qui s'appelle Cadavar, avec notamment un batteur de ouf qui avait pas moins de 2 ventilateurs pour faire voler au vent sa tignasse de viking. D'abord, je lui ai décerné le prix du meilleur batteur Muppet Show de tous les temps. Ils nous ont juste assassiné et terminé un show absolument parfait avec une reprise d'Helter Skelter.
Welcome. gap to the bottom, I go back to the top of the slide. We're stomping a tune in it to the right. Till we got to the bottom, and I see you again. Yeah, yeah. Do you don't you want me to love you? I'm coming down from the motherfucker. Tell me.
Cadavar, c'est génial parce que ce groupe-là, qu'une musique pas énormément de gens écoutent, ou alors un public vraiment très particulier, il arrive déjà de par son jeu de scène qui a un petit côté, on se prend pas au sérieux quand même, avec, comme tu le disais, ce batteur qui a les cheveux dans le vent. Alors c'est difficile à décrire, il faudrait que les gens voient ça en vrai, mais ça lui donne au batteur une temporalité différente, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il flotte dans l'air, alors qu'il envoie la sauce comme un malade sur sa batterie, mais ses cheveux, eux, ils restent suspendus en l'air grâce au ventilateur, et il en joue énormément, il a souvent la tête en arrière et tout, et du coup, ça donne un côté kitsch à cette musique qui n'est pas tant que ça, et du coup, ça, même si tu y vas pas pour la musique, qui est quand même tout à fait écoutable, c'est pas non plus des gens qui hurlent, hein. Il y a du métal qui est beaucoup plus violent, on est plus dans du stoner, avec un côté psychédélique, ça reste quand même pas non plus trop agressif, et du coup les gens qui n'ont pas l'habitude d'écouter ce genre de musique, et en tout cas ce genre de groupe, sont restés juste scotchés par ce jeu de scène tout à fait basique, mais qui est complètement génial, et du coup ils ont passé un super concert. Je sais pas s'ils gardent énormément de souvenirs des morceaux qu'ils ont écoutés, mais juste, ça les a éclatés. Les gens se sont marrés, les gens ont dansé, et ils étaient du coup super réceptifs à ce que pouvait dégager le groupe. Alors que si ça avait été un concert sans ce tout petit truc en plus, ça se trouve, ça serait passé un peu plus inaperçu.
J'ai utilisé le mot spectacle. Et alors, maintenant que t'en parles, ça me revient, toute cette mimo gestuelle du rocker viking en pantalon de cuir et la touffe Muppet Show qui vole au vent. Le concert se termine, au moment de saluer le public, les trois vikings qui avaient les dents serrées, avec les yeux exorbités, machin, d'un seul coup, on reprit des têtes de mecs normaux pour saluer le public. Et effectivement, d'un seul coup, j'ai vu passer sur leur fiole, on a bien rigolé, hein. En fait, on n'est pas des vrais vikings qui descendent les rivières pour clouer des moines sur les portes des abbayes et violer les animaux de la ferme. C'est là que je me suis rendu compte que je m'étais fait mystifier par un spectacle qui a vachement bien marché, et donc qui, comme on vous le disait, je pense, c'est terminé par cette magistrale reprise de Helter Skelter. Millénaire dernier, quand j'étais petit, dans les années 80, on parlait de scène rock qui s'est progressivement mise à englober d'autres musiques pop ou alternatives, comme le reggae par exemple. Jusqu'à ce que, fin des années 90, devant l'explosion des styles, l'on se mette à dire « musiques actuelles » parce que rock s'était dépassé. Or, il a longtemps été considéré que Tours était une ville plutôt rock. Et pendant des années, l'ex-baba cool que j'étais a donc été sevré au punk rock par Radio Béton et par le festival au quart de tour. Parce que pendant des années, pour les jeunes, il n'y avait que ça qui bougeait dans cette ville bourgeoise gouvernée pendant près de 35 ans par le très droitier Jean Royer.
Mais vous partez en guerre contre quoi exactement ?
Eh bien très exactement, contre toutes les formes de la pornographie, par le tract, par le livre, par le journal, par le cinéma, afin de protéger les équilibres humains et sociaux et de faire respecter un minimum de propreté, comme nous le faisons dans le cadre de notre vie tourangelle.
J'ai détesté cette esthétique punk rock de gens qui savent à peine jouer, mais tout en appréciant l'esprit anti-commercial du punk, le fameux DIY, le do-it-yourself, le fais-le-toi-même. Il m'aura peut-être fallu ces années de marinade punk pour, entre autres groupes, savourer pleinement le rock speed et brutal des Burning Heads, qui eux sont d'Orléans, ville historiquement plutôt punk. Les Burning Heads qui en 2017 fêtaient leurs 30 années de parcours, et le son des Burning qui a encore 20 ans m'apparaissait comme du bruit violent et désagréable, il m'a fallu du temps pour piger que ce son
c'est en fait de l'amour en bar, mais exprimé de manière rugueuse, Enzo.
Ouais, complètement. Moi, j'ai pas eu besoin de 30 piges. Je sais pas quand est-ce que commence la culture musicale de quelqu'un. J'ai écouté un peu de punk quand j'étais plus jeune. J'ai écouté les trucs qu'on écoutait tous au lycée, comme Guérilla Poubelle, des trucs comme ça, du punk français. Un peu sombre, parce que quand on est jeune, on aime bien un peu avoir des problèmes dans la vie. Donc c'est des groupes qui peuvent un peu sublimer ce que t'as l'impression de ressentir. Mais j'ai assez rapidement arrêté, mine de rien, d'écouter du punk. Et puis quand je suis arrivé à Béton, donc il y a 6 ans, on est obligé de se confronter, pas qu'au punk d'ailleurs, on est obligé de se confronter à énormément de musique quand on bosse à Radio Béton en tant qu'animateur. Pas quand on est bénévole dans une émission spécialisée, parce que là, on défend la musique qu'on aime dans une émission spécialisée. Quand on est animateur de journée à Béton, on a une obligation, c'est de passer un peu de tous les styles. On a défini un peu arbitrairement, je ne sais pas quand, mais au début de la radio, la musique dans 4 styles. Ça peut paraître un peu grossier, mais en gros, il y a les musiques rock, punk rock, metal, ce qui peut être un peu violent. Quoique le post-rock, on peut aussi le mettre là-dedans. Voilà, quelque chose à base de guitare et de batterie. On a toute la musique qui va être hip-hop, funk, soul, ce qui va être black music. On a la musique pop, folk, indie, et on a la musique électronique. Ça fait 4 styles de musique qui essayent d'englober à peu près tout ce qui se passe, en tout cas tout ce qu'on représente à Béton. À la fin de notre émission, de 2h ou de 3h, il faut qu'on ait passé à peu près la même quantité de morceaux de chaque style. Donc forcément, moi quand je suis arrivé, j'étais plus hip-hop, j'étais plus musique électronique, j'étais un peu reggae, dub, tout ça. Je sortais d'une période babloche, hein. Moi aussi j'avais des écharpes en patchouli et des pantalons en lin rouge que j'avais acheté au printemps de Bourges. Bref.
Vache, putain, j'aurais jamais imaginé un truc pareil.
Quand on a les chakras ouverts, c'est pas mal, ça permet de s'imprégner de plein d'autres choses. Et progressivement, je dis pas qu'au début ça n'a pas été un petit peu violent, mais progressivement, je me suis clairement ouvert à une musique beaucoup plus, entre guillemets, violente, beaucoup plus punk, beaucoup plus rock, même si j'ai encore un peu du mal avec le métal, je le conçois. Mais du punk, maintenant, j'adore ça. J'adore cette urgence, cette violence, ce je m'en foutiste aussi. Ça fait vachement du bien dans la musique. C'est des éternels adolescents, les punks. En tout cas, j'espère, pour la plupart. Et moi, j'ai rencontré les Burning Heads, on les connaît forcément, quand on est de la région centre, moi je viens de Bourges.
C'est des gars d'Orléans, c'est des voisins, quoi.
J'ai dû les croiser en festival plusieurs fois, vu que j'en ai fait beaucoup, et que c'est aussi un groupe qui a pas mal joué dans des festivals de Babloche, parce qu'ils ont un côté punk rock assez accessible, et en même temps, ils ont des morceaux reggae. Grande particularité de ce groupe, ils décloisonnent à fond, hein. Ils m'ont dit aussi qu'à leur début, ils le font plus trop maintenant, mais ils aimaient bien finir leurs concerts par des DJ sets de hard tech. Alors, le punk rocker, la hard tech, au début, ça matchait pas du tout. Maintenant, un peu plus, mais ça matchait pas du tout. Bref, ils ont toujours été dans ce décloisonnement des styles. Et moi, je les ai rencontrés il y a pas très longtemps, en fait. J'ai eu beaucoup de chance. Je me suis retrouvé en octobre de l'année dernière, donc il y a un an. J'étais au Japon pour accompagner les Burning Heads et Boogers en tournée au Japon. C'est la première fois que je partais en tournée avec un groupe. Je suis pas musicien moi-même, donc c'est même la première fois que je partais en tournée, en fait, tout simplement. Et je me suis fadé 12 concerts en 14 jours de Burning Heads. Tant de dire que là, j'ai rattrapé tes 30 ans de Burning Heads à Béton. Moi, je les ai faits en une semaine. Et en fait, c'est génial ce qu'ils font. Moi, je connaissais pas tant que ça. Et vraiment, je trouve leurs morceaux super... Enfin, c'est des tubes, quoi. Les mecs, ils écrivent des tubes punk rock. En plus, c'est des gens super humains, toujours droit dans leurs bottes. Enfin, super rencontre. Et du coup, en rentrant, j'ai fait, les gars, l'année prochaine, c'est vos 30 ans de tournée, on vous file carte blanche au quart pour fêter vos 30 ans. Et du coup, ils en ont profité pour amener un groupe japonais.
Et c'est Skippers. Voilà. Qu'est-ce que c'est drôle de voir des japonais faire du punk rock. J'adore ça.
Ils sont très géniaux. Alors moi, voilà, je suis pas un expert en punk rock, mais pour avoir pas mal discuté avec les gars des Burning pendant la tournée, ça les a fait halluciner. C'est des gamins, en plus, la plupart, les skippers sont pas bien vieux. Hein. C'est des gamins, et ils ont une technique, apparemment, c'est des bourrins de travail, et c'est pas que un stéréotype facile sur les japonais, c'est vraiment des putains de bourrins de travail, et du coup, ça se ressent aussi dans leur manière de faire de la musique. Parfois, ça peut les un peu pêcher, du coup, ils font trop technique, ça manque un peu de naturel, mais des fois quand ils arrivent à allier les deux, c'est juste des monstres. Et on en a croisé beaucoup, des petits groupes que personne connaît, mais qui foutent la fessée à pas mal de grands groupes de punk rock. notamment les Burning qui disaient des fois, putain, on passe après eux, la honte. Mais ils ont le chaud dans le sang, les Burning. À chaque fois, ça marchait bien. Mais ouais, pas mal de belles rencontres au Japon. Et le Japon avec Béton a quand même une histoire, en tout cas ces dernières années, assez liée. Parce qu'on a des bénévoles illustres qui sont intégrés dans la culture japonaise. Je pense notamment à Naoko.
Qui est japonaise
et qui fait le pont en ayant créé une structure en plus, Live House Asakusen, enfin qui fait partie de cette structure, qui fait le pont entre le Japon et la France depuis quelques années. Et on avait accueilli notamment, pour la 30e édition en 2015, une carte blanche à Live House d'Asakusen où on avait accueilli deux groupes japonais à l'époque. Puis on avait fait aussi de notre propre chef Guitar Wolf, groupe japonais. Pour le coup, c'était pas dans la technique, dans le show. C'est vrai que des groupes japonais, on en voit très peu en France. C'est vraiment très rare. Okar est un peu une exception là-dessus, voilà, par des hasards humains finalement.
Les Skippers, donc, qui sont venus jouer Okar, sont des copains des Burning Heads, qui eux-mêmes sont allés au Japon. Et Okar 2017, bah voilà, 30 ans de carrière dans les pattes pour les Burning. Bah ça y allait, comme en 40. C'était drôle ce pogo, parce que c'était pas des pogos des années 80, tu vois, t'as parlé de bienveillance à un moment tout à l'heure, je pense que c'est quelque chose qui colle à Okar tout le temps. En fait, on est bien à Okar. À Okar, il n'y a pas d'agression, il n'y a pas de... Bon, évidemment, quand t'as 5000 personnes et que c'est un peu le samedi soir, tu peux voir des mecs qui ont un peu bu ou qui peuvent se bousculer, mais franchement, moi, justement, qui travaille pas à Okar de Tours, j'ai le temps de me balader et franchement, la Croix-Rouge, ils se font chier, hein, quand même, la plupart du temps, faut quand même bien le dire, parce que t'as prononcé le mot bienveillance et je pense que c'est un maître mot pour Okar de Tours. Et moi, j'ai beaucoup utilisé le mot amour aussi. Et là, avec les Burning, cette année, je l'ai vraiment ressenti. Les chiens d'Orléans, quand ils hurlent de l'amour. Et puis, tu l'as mentionné aussi tout à l'heure. Bon, je veux dire un truc qui choquera certainement beaucoup de gens. Mais il y a très, très peu de reggae, en fait, que je supporte. Il y a celui de Marley, évidemment, parce que bon. Et Gainsbourg, bon, évidemment, il y a des musiciens qui sont en commun avec ceux de Marley. Quelle surprise! Et puis, il y a quelques années, quand les Burning Heads ont sorti ces deux albums opposites, voilà, il y a le 1 et il y a le 2, où il y a ces reprises de standards jamaïcains, et puis des compos des Burning aussi, bah, ça m'a complètement cueilli, parce que bah, voilà, j'ai parlé tout à l'heure pour Perroquet de White Electric Voodoo. C'est-à-dire que bah, ouais, c'est des petits culs blancs qui ont pris 2-3 trucs à la musique africaine, j'ai l'impression, et à Fela Kuti et à tout ça. Et ces gros bourrins à crâne tondu tatoué de Burning Heads qui font du hardcore de mecs pas contents parce qu'il habite Orléans, quand ils font du reggae, c'est juste absolument exceptionnel. Et puis bah, je te propose qu'on termine en fait cet entretien avec la reprise de ce grand standard jamaïcain. Ça s'appelle Police and Helicopter. On s'écoute ça tranquille et puis on se retrouve pour une prochaine fois, Enzo. On parlera au quart 2018 en attendant les Burning Heads et la police dans l'hélicoptère. Merci, à très bientôt.
Merci.
Voilà les amis, j'avais envie d'écouter de la musique avec vous. J'aurais bien aimé avoir eu le talent de vous dire des choses intelligentes autour d'Okar de Tours et des musiques actuelles.
Bah, j'aurais au moins essayé de vous parler d'autre chose que des malheurs du monde, ce qu'on fera lors de notre prochaine émission, très bientôt, sur cette même antenne.
Et la 33e édition du festival au Gare de Tours, c'est du mardi 5 juin au samedi 9 juin 2018 à Tours. Salut.
Terminé.
Les petits cons alternatifs doivent s'arrêter maintenant.